Bonjour, Régis Coulange. Je suis conseiller national d'Amnesty International pour la région PACA et je vous propose une émission sur les droits humains et l'action d'Amnesty pour le respect de ces droits. Cette émission s'appelle « Pour la dignité ». Tous les derniers lundis de chaque mois, de 16h30 à 17h30 sur Fréquence Mistral 99.3.
Sur Fréquence Mistral 99.3. Et c'est tout de suite. Bonjour Régis.
Bonjour Odile, bonjour à tous. Voilà, alors pour cette émission, tout d'abord c'est une émission hommage à Georges Brassens, qui a toujours pris le parti des plus faibles, des simples, des braves gens, et en dénonçant les hypocrisies. Et on va parler aujourd'hui des entraves au droit de manifester en France, du devoir de vigilance des multinationales, de la surveillance numérique ciblée, de la liberté en Russie, et puis des actions du groupe d'Amnesty de Digne. Voilà, alors on commence. Ça fait un an qu'on mène un combat pour le droit de manifester en France. On a mis du temps, parce que mener une enquête, ça prend du temps. Alors, pour rappeler le contexte, à partir de novembre 2018, les Gilets jaunes manifestent dans différentes villes de France, tous les samedis. Après plusieurs semaines, la question des violences policières commence à entrer dans le débat public, notamment grâce au travail des journalistes et à nos alertes. Cependant, et c'est ce qu'on va s'intéresser aujourd'hui, une autre forme d'entrave est moins documentée. Ce sont les arrestations de manifestants pacifiques. Nous décidons alors de les documenter et nous lançons un appel à témoins pour commencer nos recherches sur le sujet. Résultat, plus d'une centaine de réponses. Nous menons des entretiens avec des dizaines de manifestants pacifiques, victimes d'arrestations. Nous demandons également des entretiens avec le ministère de la Justice, l'IGPN, le défenseur des droits, le procureur de Paris, des avocats et des magistrats. Tous les éléments recueillis sont corroborés par des dossiers judiciaires, des communiqués officiels ou des statistiques des ministères. Après plusieurs mois de travail, notre enquête « Arrêtée pour avoir manifesté » sort enfin. En 2020, septembre 2020, un rapport riche et dense, nourri d'analyses de lois et de nombreux témoignages, qui nous permet de formuler des recommandations concrètes. Notre rapport reçoit une couverture médiatique large et qualitative. Les médias amplifient la portée de notre combat et de nos alertes et contribuent à engager largement le public. Notre enquête s'accompagne d'une série de recommandations précises. Alors, au même moment que nous sortons nos rapports, nous lançons une pétition « Manifestants, pas criminels ». Les pétitions, au même titre que les manifestations, permettent de montrer que nous sommes nombreux. Marcher dans la rue ensemble ou signer un texte collectif permet de montrer que nous ne sommes pas seuls et permet de renforcer le pouvoir de toutes celles et ceux qui veulent dénoncer les violations des droits humains. Nous envoyons ce rapport aux parlementaires. Devant ce travail de plaidoyer, cette couverture médiatique, il devient de plus en plus difficile pour les élus d'ignorer le problème. En octobre, les députés font une commission d'enquête sur les pratiques et doctrines du maintien de l'ordre et elles interrogent notre chargée de plaidoyer, Anne-Sophie Saint-Bert, que vous allez entendre à la suite. Ensuite, en février 2021, suite aux nombreuses arrestations arbitraires de manifestants pacifiques le 12 décembre 2020, à Paris, nous réalisons une nouvelle enquête « Climat d'insécurité totale ». Sur 142 arrestations, 124 personnes sont placées en garde à vue, plus de trois quarts seront relâchées sans poursuite, faute d'éléments pour le faire. Nous avons lancé pour Frédéric Villaume, qui est un syndicaliste de Besançon, et qui a subi un harcèlement continu de la part des forces de police et des autorités judiciaires pour avoir simplement manifesté pacifiquement. Nous lançons pour lui une action urgente pour le soutenir et pour demander sa relaxe en interpellant par mail le procureur de Dijon. En direct du tribunal, nous apprenons cette bonne nouvelle, Frédéric Villaume est relaxé. Le 29 septembre 2021, un an après la sortie de notre rapport, nous consacrons notre premier documentaire de 52 minutes au sujet « Présumé coupable donne la parole aux personnes qui se sont retrouvées devant la justice pour avoir simplement manifesté pacifiquement ». Vous pouvez voir ce documentaire sur le site amnesty.fr. Nous avons dépassé les 100 000 signatures pour demander un cadre protecteur du droit de manifester pacifiquement en France. Vous pouvez continuer à signer, chaque signature compte, toujours sur le site amnesty.fr. Nous allons donc maintenant écouter Anne-Sophie Saint-Père d'Amnesty International qui parle de ce thème et ensuite le témoignage d'un jeune Adrien.
Ce qu'on a constaté, c'est qu'on peut aujourd'hui être convoqué au commissariat, arrêté, voire même condamné simplement pour avoir affiché un slogan ou pour avoir scandé un slogan manifestation. Il y a des personnes qui ont été arrêtées parce qu'elles peignaient des banderoles. Il y a des personnes qui ont été arrêtées en amont d'une manifestation où elles se rendaient simplement parce qu'elles avaient du matériel de protection dans leur sac à dos, parce qu'elles souhaitaient se protéger des gaz lacrymogènes. C'est pas anodin de rester enfermé de longues heures sans savoir ce qui va nous arriver. C'est pas anodin d'attendre un procès. On a déjà un sentiment d'injustice lié au fait qu'on a été arrêté alors qu'on n'a rien fait. Donc il y a une perte de confiance aussi dans les autorités judiciaires. Donc c'est une source de stress, d'angoisse. On se demande quelles vont être les conséquences. Il y a des coûts en termes de frais d'avocat. Donc tout ça a un effet dissuasif. On peut renoncer à aller manifester pour cette raison. Il y a des témoins qui nous ont parlé de cette conséquence sur leur engagement. On a tous cette expérience aussi de manière un peu plus légère de pas vouloir aller manifester parce qu'on risque d'être bloqué dans une nasse, parce qu'on risque d'avoir un contrôle d'identité qui va se prolonger 4 heures même si on a notre pièce d'identité. Donc il y a toute une série d'entraves à la circulation, de risques d'arrestation qui peuvent décourager des personnes qui souhaitaient descendre dans la rue, exprimer des revendications. On n'est pas opposé au fait que des manifestants qui ont commis des dégradations, des violences, fassent l'objet de poursuites, tant qu'ils ont droit à un procès équitable. En revanche, il faut protéger les manifestants qui viennent exprimer des revendications de manière pacifique. Et en France, on constate que des milliers de personnes qui s'étaient rendues en manifestation ont fini en garde à vue sans avoir commis aucune violence. En fait, le droit à manifester, c'est un corollaire de la liberté d'expression, c'est le droit à la liberté de réunion pacifique, c'est consacré dans les plus grands traités de protection des droits humains, la Convention européenne des droits de l'homme, le pacte international pour les droits civils et politiques. Donc la France est engagée à respecter le droit de manifester. Elle doit à la fois le protéger et en permettre son exercice de manière active. Donc tout faire pour que les gens puissent exercer cette liberté. Il faut que les gens puissent descendre dans la rue et exprimer des opinions politiques sans craindre les violences policières, mais également sans craindre les arrestations, les poursuites et des suites juridiques alors qu'ils n'ont commis aucune violence. Il y a des lois qui sont simplement à abroger parce qu'elles sont contraires au droit international. Par exemple, il faut arrêter de criminaliser le fait d'organiser une manifestation non déclarée. En droit international, une manifestation n'a pas à être déclarée pour être légale. Ensuite, il y a des lois qui doivent être précisées. La loi sur le délit de groupement en vue de la préparation de violence, il faut qu'il y ait des critères beaucoup plus précis pour que ça ne permette pas d'arrêter simplement des personnes qui se rendent en manifestation avec du matériel de protection, avec un masque de Benalla ou simplement des personnes qui gonflent des ballons jaunes sur les Champs-Élysées un 14 juillet. Tout ça, c'est des cas qu'on a documentés dans notre rapport. Et ensuite, il y a des changements de pratique. Les forces de l'ordre ne doivent plus placer des personnes en garde à vue quand il y a peu d'éléments ou pas d'éléments pour les garder en détention. Il faut aussi changer les pratiques des contrôles d'identité. Beaucoup trop de personnes sont retenues des heures pour des contrôles d'identité alors qu'elles sont en mesure de montrer leurs papiers. Dans ces cas-là, le contrôle d'identité s'arrête immédiatement. Il n'y a aucune raison de garder les personnes et de les empêcher de circuler ou de les empêcher d'aller manifester.
Voilà, alors maintenant, on va écouter le témoignage d'un jeune qui s'appelle Julia. Je me suis trompé tout à l'heure.
Le samedi 12 décembre se tenaient partout en France des manifestations contre la proposition de loi Sécurité globale. À Paris, la police procède à 142 arrestations et place 124 personnes en garde à vue, la plupart sans raison valable. Stress, humiliation, sentiment d'injustice et angoisse, les gardes à vue laissent des traces chez celles et ceux qui les vivent. Nous avons recueilli le témoignage de Julien et avons fait lire son récit par Mathias Ravelot. Julien a 16 ans et il a passé 20 heures en garde à vue sans aucune charge retenue contre lui.
Ce jour-là, j'avais demandé l'autorisation à mon père d'aller manifester. J'y suis allé avec quelques amis. On est arrivé à Châtelet, on s'est fait contrôler une ou deux fois, mais ils n'ont rien trouvé de problématique. On avait à peine commencé à marcher que les policiers chargeaient. Il y a un policier qui frappe une personne que je connaissais. Un autre m'attrape par les épaules et me tire par l'arrière. Ils me mettent contre le mur, contrôle d'identité. Ils m'ont fait vider mes poches, puis m'asseoir sur un petit rebord de vitrine. Au début, je ne comprends pas trop ce qu'il vient de se passer. Donc je dis pas grand-chose. Je ne réalise pas trop ce qui se passe. Je me fais attacher les mains avec des serflex. On reste une vingtaine de minutes comme ça. Dans le fourgon, je demande ce qu'ils m'y reprochaient. Ils me disent que j'ai participé à un groupe en vue de commettre un délit, avec la circonstance aggravante d'avoir dissimulé partiellement mon visage. On m'accuse de rébellion, de refus de dispersion après désomnation, et d'entrave à une interpellation. On est allé au commissariat du 15e arrondissement. On arrive autour de 18h. On nous coupe les serflex avec un couteau. Je dois vider toutes mes affaires dans un bac et enlever mes lacets de chaussures. Ils coupent aussi le cordon de mon pantalon. Après, ils m'ont emmené dans une salle. J'ai dû me mettre en caleçon. On nous a ensuite placés dans la cellule pour mineurs. On est resté un certain temps. Je ne sais pas combien de temps, je n'avais aucun moyen de le savoir. J'étais assez stressé au début. Et puis, je ne me rendais pas vraiment compte. C'est allé très vite. J'ai vu un officier de police judiciaire qui m'a annoncé mes droits. Il m'a demandé des informations sur mon identité. Après, on est resté en cellule jusqu'à 23h. Puis on a vu un médecin. Ensuite, on retourne en cellule. On essaie de dormir un peu. On était deux dans la cellule. Il y a juste un matelas sur un banc et une couverture. Il y avait une énorme lumière pointée sur nous pendant les 24 heures. Le lendemain, on ne sait pas trop quelle heure il est. Au bout d'un moment, on est venu me chercher et on m'a emmené dans une salle pour prendre des photos de moi. Ils ont pris des photos des signes distinctifs que j'ai, comme mes cicatrices. Ils ont pris mon ADN, mes empreintes et m'ont demandé ma taille. Je ne crois pas qu'ils m'aient demandé si j'étais d'accord. Mon père leur avait dit de contacter notre avocate. Mais moi, j'ai eu une commis d'office. J'ai eu une sorte d'interrogatoire. On m'a demandé ce que je faisais dans la vie, pourquoi j'étais à la manifestation, si je reconnaissais les faits qui m'étaient reprochés. Mais j'ai dit que je n'avais rien fait. Ils ont fouillé mon téléphone avec mon accord. Ça me dérangeait, mais je n'avais rien fait. Je me suis dit que ça irait dans mon sens si j'allais dans leur sens. Mon avocate m'a dit qu'il verrait ça d'un bon œil. Je repars en cellule. Après, ils m'ont dit que mon dossier était envoyé au procureur de la République pour qu'il donne une réponse dans l'après-midi pour savoir si on restait ou pas en garde à vue. Moi, je me dis que depuis la veille, je n'ai pas eu beaucoup de chance, donc je m'attends à être prolongé. Mais vers 15h30, dimanche, je suis relâché, sans charge. J'étais soulagé, content de sortir. Je ne comprends toujours pas pourquoi on a été arrêté.
Pour défendre le droit de manifester en France, vous pouvez signer notre pétition, vous former grâce à notre kit contre la criminalisation des manifestants et rejoindre le groupe local d'Amnesty, le plus proche de chez vous.
Eh bien, ça fait froid dans le dos.
Voilà, un témoignage d'un jeune de 16 ans. Et vous avez d'autres témoignages donc sur le site d'amnesty.fr. N'hésitez pas à y aller. On va maintenant écouter Brassens dans sa fameuse chanson « La mauvaise réputation ».
Au village sans prétention, j'ai mauvaise réputation. Je me démène ou que je reste quoi, je passe pour un je ne sais quoi. Je ne fais pourtant de tort à
personne en suivant mon chemin de petit bonhomme. Mais les braves, j'en aime pas que l'on suive une autre route que. Non, les braves, j'en aime pas que l'on suive une autre route que. Tout le monde médit de moi, sauf les muets, ça va de soi. Le jour du 14 juillet, je reste dans mon lit douillet. La musique qui marche au pas, cela ne me regarde pas. Je ne fais pourtant de tort à personne en n'écoutant pas le clairon qui sonne. Mais les braves, j'en aime pas que l'on suive une autre route que. Non, les braves, j'en aime pas que l'on suive une autre route que. Tout le monde me montre au doigt, sauf les manchots, ça va de soi. Quand je croise un voleur malchanceux, poursuivi par un cutéreux, je lance la patte et pourquoi le taire? Le cutéreux se retrouve par terre. Je ne fais pourtant de tort à personne en laissant courir les voleurs de pommes. Mais les braves, j'en aime pas que l'on suive une autre route que. Non, les braves, j'en aime pas que l'on suive une autre route que. Tout le monde se rue sur moi, sauf les cul-de-jattes, ça va de soi. Pas besoin d'être Jérémie pour deviner le sort qui m'est promis. S'ils trouvent une corde à leur goût, ils me la passeront au cou. Je ne fais pourtant de tort à personne en suivant les chemins qui ne mènent pas à Rome. Mais les braves, j'en aime pas que l'on suive une autre route que. Non, les braves, j'en aime pas que l'on suive une autre route que. Tout le monde viendra me voir pendu, sauf les aveugles, bien entendu.
Voilà. Alors maintenant, on va parler du devoir de vigilance. 4 ans de combat pour mettre fin à l'impunité des multinationales. Le 23 octobre 2019, les Amis de la Terre, l'association Survie et 4 ONG ougandaises ont lancé la toute première action en justice fondée sur la loi sur le devoir de vigilance contre Total concernant les activités de ses filiales et sous-traitants en Ouganda. Cette action en justice a été rendue possible parce que la France a adopté le 28 mars 2017 la loi sur le devoir de vigilance et a ainsi rendu possible l'engagement de la responsabilité juridique des entreprises en matière de droits humains, ainsi qu'un accès à la justice des victimes de violations perpétrées par des activités de celles-ci et celles de ses filiales, sous-traitants et fournisseurs. Avant cette loi, il était en effet très difficile d'établir un lien juridique et d'entamer de telles poursuites. Étant la première de son genre dans le monde, la loi française a été toutefois l'objet d'une lutte difficile et le fruit de 4 années de mobilisation citoyenne et de pression politique. Dominique Potier, qui a été le rapporteur sur la loi sur le devoir de vigilance, nous dit « Il nous appartient à nous, Parlement, à nous, législateurs, d'établir des rives pour canaliser les courants et éviter les marécages, ceux des sales affaires, ceux du mépris du monde, du pauvre monde et des pauvres gens. » 3 acteurs de la société civile qui ont œuvré à l'adoption de cette loi au Parlement témoignent du chemin parcouru. Sherpa, le CCFD et le collectif de l'éthique sur l'étiquette. Chacun à leur tour, ils reviennent sur ces moments clés du processus de l'adoption de la loi sur le devoir de vigilance. Alors, tout cela remonte au 24 avril 2014, avec l'effondrement du Rana Plaza au Bangladesh, qui cause la mort de 1138 ouvrières du textile et fait plus de 2000 blessés. On en avait parlé dans notre émission. Dans ces décombres, de nombreuses étiquettes des grandes marques sont retrouvées. Les répercussions de la catastrophe se font ressentir partout dans le monde et provoquent une prise de conscience collective, y compris au sein du Parlement français, de l'urgence de responsabiliser les grandes multinationales, notamment pour les activités de leurs fournisseurs et sous-traitants. Cet événement met en lumière plusieurs éléments. De nombreux produits de notre quotidien sont fabriqués dans des environnements dégradés et nuisibles aux employés. Les victimes se retrouvent démunies face à des employeurs peu scrupuleux. Des mesures auraient pu être prises pour prévenir les drames. Les multinationales bénéficient d'une impunité juridique. Un événement de mobilisation pour interpeller le président de la République, François Hollande à l'époque, a eu lieu à Paris, afin d'inscrire dans le calendrier le projet de loi sur le devoir de vigilance. Cette mobilisation citoyenne a permis de soutenir la campagne, notamment celle que nous avions lancée en 2014, « Faites pas l'autruche », avec l'appui de l'acteur Lambert Wilson. Dans le cadre de cette campagne, des centaines de citoyens ont écrit à leurs députés et sénateurs pour les presser à voter la proposition de loi sur le devoir de vigilance. Alors que la bataille législative fait rage et que les rejets sont nombreux, c'est finalement le 21 février 2017, 3 jours avant la fin de la mandature parlementaire, que la persévérance de la mobilisation citoyenne porte ses fruits, la loi est adoptée. Le devoir de vigilance est une obligation qui incombe aux entreprises multinationales de mettre en place des mesures pour prévenir, atténuer, réparer les atteintes aux droits humains et à l'environnement engendrées par leur activité ou celles de leurs filiales. La loi française impose un devoir de vigilance aux entreprises établies en France ayant au moins 5 000 salariés en France ou 10 000 dans le monde et concerne tous les secteurs d'activité ainsi que toutes les atteintes graves envers les droits humains et les libertés fondamentales, la santé et la sécurité des personnes ainsi que l'environnement. Les entreprises soumises au devoir de vigilance ont donc l'obligation légale de publier dans leur rapport annuel et de mettre en œuvre de façon effective un plan de vigilance afin d'identifier et de prévenir les risques d'atteinte aux droits humains et à l'environnement. Au-delà des frontières françaises, une législation sur la responsabilité des entreprises en matière des droits humains et d'environnement devrait être adoptée au sein de l'Union européenne. Le Parlement européen s'est déjà saisi de la question et s'est prononcé le 11 mars 2021 à une importante majorité en faveur d'une législation européenne. Désormais, c'est au tour de la Commission européenne de proposer cette législation. Voilà un petit peu comment on travaille pour améliorer les lois et donc les droits humains. On va maintenant écouter Brassens, notre ami Brassens, chanson pour l'Auvergnat.
Elle est à toi, cette chanson, toi l'Auvergnat qui sans façon m'a donné 4 bouts de bois quand dans ma vie il faisait froid. Toi qui m'as donné du feu quand les croquantes et les croquants, tous les gens bien intentionnés m'avaient fermé la porte au nez. Ce n'était rien qu'un feu de bois, mais il m'avait chauffé le corps, et dans mon âme il brûle encore, à la manière d'un feu de joie. Toi l'Auvergnat, quand tu mourras, quand le croque-mort t'emportera, qu'il te conduise à travers ciel, au Père éternel. Elle est à toi cette chanson, toi l'hôtesse qui sans façon m'a donné 4 bouts de pain quand dans ma vie il faisait faim. Toi qui m'ouvris ta huche quand les croquantes et les croquants, tous les gens bien intentionnés s'amusaient à me voir jeûner. Ce n'était rien qu'un peu de pain, mais il m'avait chauffé le corps, et dans mon âme il brûle encore, à la manière d'un grand festin. Toi l'hôtesse, quand tu mourras, quand le croque-mort t'emportera, qu'il te conduise à travers ciel, au Père éternel. Elle est à toi cette chanson, toi l'étranger qui sans façon d'un air malheureux m'a souri lorsque les gendarmes m'ont pris. Toi qui n'as pas applaudi quand les croquantes et les croquants, tous les gens bien intentionnés riaient de me voir amener. Ce n'était rien qu'un peu de miel, mais il m'avait chauffé le corps,
Et dans mon âme, il brûle encore à la manière d'un grand soleil. Toi, l'étranger, quand tu mourras, quand le croque-mort t'emportera, qu'il te conduise à travers ciel, au Père éternel.
Voilà, très belle chanson hein, sur la solidarité, l'accueil. C'est magnifique. Voilà, on va maintenant parler d'une pétition qui est en ligne sur le site amnesty.fr et que vous pouvez aller signer avec toutes les autres. Alors, une pétition, celle qui porte sur la surveillance ciblée. Nous avons pour l'instant 32 689 signatures. On espère en atteindre 50 000 rapidement. Donc, je vous engage à aller signer cette pétition et puis toutes les autres aussi, une fois que vous y êtes. Alors, cette pétition porte sur les attaques numériques contre les défenseurs des droits humains, les journalistes et les membres de la société civile, parce que ces attaques sont en augmentation. Leurs appareils numériques sont piratés, ils peuvent être espionnés, réduits au silence et intimidés. Les révélations du projet Pegasus en sont un exemple flagrant. Dans certains pays, cela peut être risqué et dangereux de défendre les droits humains et de révéler la vérité. De plus en plus, des gouvernements utilisent des outils de surveillance numérique pour intimider, harceler et arrêter les personnes. Nous avons analysé ces méthodes, ces techniques, notamment ce fameux logiciel Pegasus, qui utilise les failles du téléphone de la personne ciblée sans qu'elle ait cliqué sur un lien, pour en prendre le contrôle et siphonner toutes les informations qu'il contient. Un outil rêvé pour espionner, en l'absence de tout contrôle, et dans le monde entier, des dirigeants politiques de premier plan, mais aussi des journalistes, des avocats, des défenseurs des droits humains. Parmi les clients de NSO Group, qui est la société qui fabrique ce logiciel, société israélienne, figurent des États comme l'Arabie Saoudite, l'Azerbaïdjan, la Hongrie ou encore le Maroc, connus pour de graves violations des droits humains. Gouvernements et entreprises disent que ces outils de surveillance ne sont utilisés que pour cibler des criminels et des terroristes, mais dans la réalité, ce n'est pas le cas. Le projet Pegasus révèle que des politiques, le président Macron notamment, des journalistes et encore des défenseurs des droits humains, ont été pris pour cible. L'exportation de technologies de surveillance à des gouvernements qui utilisent ces outils de manière illégale doit cesser. Aussi, on demande au président de la République de soutenir l'appel à mettre en pause temporairement les ventes, transferts et usages de technologies de surveillance à travers le monde jusqu'à ce qu'un cadre réglementaire approprié en matière de droits humains soit mis en œuvre, de veiller à ce que ces outils ne soient pas utilisés pour cibler illégalement les défenseurs des droits humains et la société civile. Voilà, donc si vous êtes d'accord à cette pétition, vous pouvez aller la signer sur le site amnesty.fr. On va maintenant écouter une autre chanson de Brassens, La balade des gens qui sont nés quelque part.
C'est vrai qu'ils sont plaisants, tous ces petits villages, tous ces bourgs, ces hameaux, ces lieux-dits, ces cités, avec leurs châteaux forts, leurs églises, leurs plages, ils n'ont qu'un seul point faible, et c'est d'être habité, et c'est d'être habité par des gens qui regardent le reste avec mépris du haut de leur rempart. La race des chauvins, des porteurs de cocardes, les imbéciles heureux qui sont nés quelque part. Les imbéciles heureux qui sont nés quelque part. Maudits soient ces enfants de leur mère patrie, empalés une fois pour toutes sur leur clocher qui vous montre leur tour, leur musée, leur mairie, vous font voir du pays natal jusqu'à Loucher, qu'ils sortent de Paris ou de Rome ou de Sète ou du diable Vauvert ou bien de Zanzibar. Ou même de mon cul, ils s'en flattent mazette, les imbéciles heureux qui sont nés quelque part. les imbéciles heureux qui s'en est quelque part. Le sable dans lequel douillettent leurs autruches enfouissent la tête. On trouve pas plus fin quant à l'air qu'ils emploient pour gonfler leurs baudruches, leurs bulles de savon. C'est du souffle divin. Et petit à petit, les voilà qui se montent le cou jusqu'à penser que le crottin fait part. Leurs chevaux, même en bois, rend jaloux tout le monde. Les imbéciles heureux qui sont nés quelque part. Les imbéciles heureux qui sont nés quelque part. C'est pas un lieu commun, celui de leur naissance. Ils plaignent de tout cœur les pauvres malchanceux, les petits maladroits qui n'eurent pas la présence, la présence d'esprit de voir le jour chez eux. Quand sonne le tocsin sur leur bonheur précaire contre les étrangers tous plus ou moins barbares, ils sortent de leur trou pour mourir à la guerre. Les imbéciles heureux qui sont nés quelque part. Les imbéciles heureux qui sont nés quelque part. Mon Dieu, qu'il ferait bon sur la terre des hommes si l'on y rencontrait cette race incongrue, cette race importune, et qui partout foisonne, la race des gens du terroir, des gens du cru. Que la vie serait belle en toutes circonstances si vous n'aviez tiré du néant ces jobards. Preuve peut-être bien de votre inexistence, les imbéciles heureux qui sont nés quelque part. Les imbéciles heureux qui sont nés quelque part.
Voilà, encore une très belle chanson de Brassens qui est toujours d'actualité à l'heure où renaissent fortement les nationalismes de tout poil. On va maintenant parler de la Russie. En effet, le 7 octobre 2021 marquait les 15 ans de l'assassinat d'Anna Politkovskaya, cette grande journaliste russe et éminente défenseur des droits humains. Le lendemain, le 8 octobre 2021, Dmitri Muratov, rédacteur en chef du journal russe d'investigation Novaya Gazeta, a reçu le prix Nobel de la paix. Deux semaines après, le 20 octobre, le Parlement européen a remis le prix Sakharov à Alexei Navalny en saluant l'immense courage du militant politique russe. Le même jour, nous organisions avec d'autres associations une conférence exceptionnelle à l'Hôtel de Ville de Paris en hommage à toutes ces personnes qui se battent pour la liberté d'expression en Russie. Plus que jamais, nous devons soutenir les voix indépendantes que les autorités russes cherchent à réduire au silence par tous les moyens. Pour les journalistes indépendants, la situation en Russie est de plus en plus difficile. Pour autant, malgré les menaces et les dangers, ils poursuivent leur travail. Nous avons édité un livre récemment qui s'intitule « Ils font vivre le journalisme en Russie ». Il présente des portraits de 15 journalistes russes qui continuent d'enquêter, d'informer, d'alerter. Vous pouvez le commander sur le site amnesty.fr. Des hommes et des femmes courageux qui évoquent leurs craintes et leurs espoirs, bien qu'ils tentent de continuer leur travail de journaliste, aucun d'eux ne sait pour combien de temps encore, ni quelle sera demain la situation de la liberté de la presse en Russie. Une chose est sûre, ils ne se tairont pas. Elena Milachina, journaliste d'investigation au journal Novaya Gazeta, nous a fait l'honneur de témoigner depuis Moscou lors de la conférence à l'Hôtel de Ville de Paris. Elle a notamment enquêté sur les crimes commis en Tchétchénie. Pour cela, elle a été prise pour cible à de nombreuses reprises et a fait l'objet de menaces de mort, d'intimidation, d'agressions physiques. Voilà ce qu'elle nous a dit. « Cela fait 24 ans que je suis journaliste. J'ai commencé quand la Russie était un pays libre. Cette liberté n'a pas duré longtemps. Elle s'est terminée quand Vladimir Poutine est arrivé au pouvoir. » On va maintenant écouter une nouvelle chanson de Brassens. Qui est... Alors, les textes sont d'Antoine Paul. Il a mis aussi des textes de grands poètes en chanson. Et c'est un hommage aux femmes, ça s'appelle « Les passantes ». «
dédier ce poème à toutes les femmes qu'on aime. Pendant quelques instants secrets, à celles qu'on connaît à peine, qu'un destin différent entraîne et qu'on ne retrouve jamais. À celle qu'on voit apparaître une seconde à sa fenêtre et qui presque s'évanouit, mais dont la svelte silhouette est si gracieuse et fluette qu'on en demeure épanoui. À la compagne de voyage dont les yeux, charmants paysages, font paraître court le chemin qu'on est seul peut-être à comprendre et qu'on laisse pourtant descendre sans avoir effleuré la main. À celles qui sont déjà prises et qui vivent des heures grises près d'un être trop différent, vous ont inutile folie laissé voir la mélancolie d'un avenir désespérant. Chères images aperçues, espérance d'un jour déçu, vous serez dans l'oubli demain. Pour peu que le bonheur survienne, il est rare qu'on se souvienne des épisodes du chemin. Mais si l'on a manqué sa vie, on songe avec un peu d'envie à tous ces bonheurs entrevus, aux baisers qu'on n'osa pas prendre, aux cœurs qui doivent vous attendre, aux yeux qu'on n'a jamais revus. Alors, au soir de lassitude, tout en peuplant sa solitude, des fantômes du souvenir, on pleure les lèvres absentes de toutes ces belles passantes que l'on n'a pas su retenir.
Voilà, encore une belle chanson. On parle maintenant des actions du groupe Dinois. Donc, nous avons participé au forum des associations au lycée du Sacré-Cœur. En effet, plusieurs associations, dont Amnesty International, sont venues se présenter aux lycéens. Et ces lycéens, donc de seconde, première, terminale, sont invités à choisir parmi toutes ces associations, une, pour lesquelles ils s'engagent à donner quelques heures dans l'année. Voilà, c'est un travail sur la citoyenneté et l'engagement. Donc, on a participé à ce forum. Demain, nous avons notre réunion de groupe, comme chaque mois. Et puis, mardi 30 novembre, donc à la fin du mois prochain, on va accueillir Antoinette Chahine, qui est déjà venue sur Digne. Elle a d'ailleurs la médaille de la ville. Alors, Antoinette Chahine, je vous rappelle brièvement, c'est une Libanaise qui, très jeune, a été arrêtée et condamnée à mort pour un crime qu'elle n'avait pas commis. En appel, soutenu par Amnesty International et d'autres associations, cette condamnation a été annulée parce qu'elle elle reposait sur des aveux obtenus sous la torture. Et elle a été donc innocentée, libérée. Et depuis, elle s'est engagée dans la lutte contre la peine de mort, puisqu'elle a été condamnée à mort, et contre la torture, parce qu'elle a vécu aussi la torture. Elle va venir nous parler mardi 30 novembre, parler aux lycéens, au lycée Alexandre Davinel le matin, et au lycée Pierre-Gilles de Gênes l'après-midi, à l'invitation de l'antenne jeune de ce lycée. C'est la deuxième fois qu'elle vient en France cette année, parce que tout récemment, elle a été invitée par Ensemble contre la peine de mort aux manifestations qu'il y a eu à Paris à l'occasion des 40 ans de l'abolition de la peine de mort en France. Elle était donc invitée par le président Macron au Panthéon. Elle a assisté donc à ces cérémonies, et notamment au discours de Robert Badinter, qui était magnifique, que vous pouvez d'ailleurs écouter sur Internet. Et c'est une grande amie de Badinter, puisqu'elle mène le même combat que lui. Et donc l'objectif maintenant, c'est de progresser, et c'est son objectif à elle aussi, pour éradiquer la peine de mort dans tous les pays, et la torture également. Voilà, donc elle nous parlera, elle viendra parler au lycéen le mardi 30 novembre. Voilà, notre émission se termine. Vous allez maintenant écouter Agir avec Amnesty, suivi de la chanson de Brassens, Le Gorille. Alors cette chanson, je ne sais pas si certains ont écouté l'émission qu'il y a eu sur lui, et il disait qu'il avait fait cette chanson contre la peine de mort. Je crois que c'est l'une des peut-être la première chanson contre la peine de mort, mais c'est fait de manière très discrète. Il n'a pas dit mort à la peine de mort, hein, c'est ce qu'il dit. Mais ça part par une chanson plutôt comique. Et en fait, son intention se révèle vraiment dans les derniers vers pour dire sa haine de la peine de mort. Voilà, on écoute cette intervention et cette chanson pour terminer notre émission. Au revoir à tous.
Allô ? Je peux pas trop parler, là, je poireau devant l'Elysée avec les militants d'Amnesty International.
À l'Elysée ?
Oui, l'Elysée.
Mais qu'est-ce que tu fais là-bas ?
On est venu faire une action coup de poing et déposer notre pétition contre la prise de position du gouvernement. Là, c'est bon, ça fait trop longtemps qu'ils font la sourde oreille. Mais au fait, tu te souviens que t'as participé ?
Ah bon ?
Mais oui ! Signer et faire signer des pétitions, ce sont des actions qui peuvent se mener en équipe sur le terrain, mais aussi seules de chez toi. Et si je me souviens bien, tu avais incité pas mal de gens à participer. Alors là, dans la tonne de signatures qu'on leur ramène, il y en a quelques-unes qui sont là grâce à toi. Tu vois, tu t'engages déjà avec nous. Au fait, demain, je peux pas. Je vais à un festival, tu sais.
Tu vas en festival, toi ?
Oui, on tient un stand Amnesty International. Alors ça permet d'informer les visiteurs, d'échanger et de répondre à leurs questions. On fait souvent des opérations de sensibilisation dans des endroits sympas comme là. La prochaine fois, tu pourras venir si tu veux. Mais il faut que tu te prépares avant, hein. Faut être à l'aise avec son sujet si on veut bien informer les gens.
Ouais, mais c'est un peu technique quand même tout ce qu'il faut savoir.
Oui, mais ça va. En tant que bénévole, on n'est vraiment pas livré à nous-mêmes. Quand tu t'engages chez Amnesty International, tu peux te former à Paris, près de chez toi, ou en ligne, pour développer tes connaissances et compétences militantes. On te met à disposition tout le matériel pour agir. Tu peux même rejoindre d'autres bénévoles au sein d'un groupe local avec lesquels tu pourras échanger régulièrement et avec qui tu pourras participer aux différentes actions organisées par l'association. C'est comme ça que petit à petit, tu progresses et tu pourras commencer à ton tour à organiser des actions d'éducation aux droits humains dans des écoles ou des maisons de quartier. Et même mener des actions de plaidoyer au niveau local pour demander des comptes à nos élus ou les mobiliser.
C'est beaucoup de sensibilisation en fait.
Ah, ça c'est juste une partie de notre travail. Il est très important, mais il y a aussi plein d'autres types d'actions.
Ah bon ? Faudrait que tu m'en dises plus.
Et parfois, on intervient dans l'urgence. Tu sais que dès qu'Amnesty est averti d'une situation d'atteinte aux droits humains, on lance une action urgente qui peut mobiliser jusqu'à 170 000 personnes à travers le monde qui agissent tout en même temps pour faire cesser cette situation. Et là, ça te met quand même les dirigeants dans un sacré embarras. Tiens d'ailleurs, à propos, ça ouvre, on va être reçus. Bonjour, c'est Amnesty International. J'ai quelques lettres à vous donner, je vous les dépose où ? Dans l'allée, là ? Ah, ça va boucher l'entrée, hein ? Comme vous voulez.
C'est à travers de larges grilles que les femelles du canton contemplaient un puissant gorille, sans souci du qu'en dira-t-on. Avec impudeur, c'est comme mère, lorgnait même un endroit précis, que rigoureusement ma mère m'a défendu de nommer ici. Gare au gorille. Tout à coup, la prison bien close, où vivait le bel animal, s'ouvrant de c'est pourquoi, je suppose qu'on avait dû la fermer mal. Le Saint-Jean sortant de sa cage, dit c'est aujourd'hui que je le perds, il parlait de son pucelage, vous aviez deviné j'espère, gare au gorille. Patron de la ménagerie, grillé t'es perdu, nom de nom, c'est assommant car le gorille n'a jamais connu de guenon. Dès que la féminine engeance sut que le singe était puceau, au lieu de profiter de la chance, elle fif des deux fuseaux. Gare au gorille. Celle-là même qui naguère le couvait d'un œil décidé, fut y reprouvant qu'elle n'avait guère de la suite dans les idées. D'autant plus vaine était leur crainte que le gorille est un luron, supérieur à l'homme dans l'étreinte, bien des femmes vous le diront. Gare au gorille. Tout le monde se précipite hors d'atteinte du Saint-Jean rut, sauf une vieille décrépite et un jeune juge en bois brut. Voyant que tout se dérobe, le quadruman accéléra, s'endandinement vers les robes de la vieille et du magistrat. Gare au gorille. Bah, soupirait la centenaire, qu'on pût encore me désirer, ce serait extraordinaire et pour tout dire inespéré. Le juge pensait impassible qu'on me prenne pour une guenon, c'est complètement impossible, la suite lui prouva que non. Gare au gorille. Supposez qu'un de vous puisse être comme le singe obligé de violer un juge ou une ancêtre, lequel choisirait-il des deux ? Qu'une alternative pareille, un de ces quatre jours mes choix, c'est j'en suis convaincu la vieille, qui sera l'objet de mon choix. Gare au gorille. Mais par malheur si le gorille, au jeu de l'amour vaut son prix, on sait qu'en revanche il ne brille ni par le goût ni par l'esprit. Lors, au lieu d'opter pour la vieille, comme aurait fait n'importe qui, il saisit le juge à l'oreille et l'entraîna dans un maquis. Gare au gorille. La suite serait délectable, malheureusement je ne peux pas la dire et c'est regrettable, ça nous aurait fait rire un peu, car le juge au moment suprême criait maman, pleurait beaucoup, comme l'homme auquel le jour même il avait fait trancher le cou. Gare au gorille.